à tous. Nous allons donc aujourd'hui entamer la seconde étape de ce cycle de conférences avec le docteur Michel Briand, qui a écrit dans ce fameux numéro du débat, donc, qui est vraiment la structure de notre ensemble de conférences, l'enfant problème. Donc Michel avait écrit l'article « Un regard psychiatrique sur la condition enfantine ». Donc je vous rappelle que ce numéro du débat, qui date donc d'octobre 2004, est encore disponible suite à une réédition. Donc si vous voulez l'acquérir, n'hésitez pas. Voilà. Alors, Michel Briand est pédopsychiatre. Elle est clinicienne et a exercé dans des consultations de proximité dans des communes assez défavorisées de la banlieue parisienne. Des communes où l'ensemble de la population s'adresse spontanément et incontournablement, dirons-nous, au public pour le traitement, du fait qu'il n'y a pas de consultation et d'offres privées en termes de soins. Alors, ça se situe justement dans des banlieues parisiennes qui ne sont pas celles que l'on a connues par le fait des émeutes. C'est beaucoup plus dans des banlieues où, comme elle le disait bien, on y rencontre la misère ordinaire. Dans des lieux assez mal desservis par les communications et les transports en commun, des zones dans lesquelles l'équipement médical n'est quand même pas extrêmement favorable, mais dans lesquelles l'accès gratuit aux soins est une donnée tout à fait fondamentale. Et donc dans ce lieu, elle a pu se retrouver dans une observation assez fine de ce type de conditions, et qui l'a amené à pouvoir regarder, observer, décrire et s'intéresser aux questions fondamentales qui sont les carences dans lesquelles peuvent être déposés, si l'on peut dire, les enfants en bas âge. Alors, elle précisait aussi que dans ces populations, il y avait aussi, forcément, des gens économiquement très, très en difficulté, mais aussi toute une classe moyenne-basse, comme elle le disait, dans le sens où, comme les loyers sont très chers à Paris, ben forcément c'est sur la périphérie qu'on se rabat pour y vivre, avec des conditions de vie qui sont des 2-3 heures de trajet par jour, et donc un type de déroulement familial bien particulier, mais dans lequel elle constate que l'enfant est extrêmement investi, et pour les parents desquels, en tout cas, la vie n'aurait pas de sens sans enfant. Enfin, depuis 2 ans, Michel Briand occupe en plus de son travail de clinicienne une fonction de médecin de santé publique, dans une fonction publique donc française. Voilà, je cède la parole à Michel.
Bonjour, donc j'étais bien présenté. Voilà. Bon, j'espère que vous entendez tous, que ça va bien se passer. Alors, c'est difficile d'intervenir en sachant que la dernière fois vous avez eu Marcel Gaucher comme interlocuteur. Enfin, je vais essayer quand même d'alimenter cette réflexion. Alors, je vais parler très concrètement et très quotidiennement, en essayant d'absolument pas jargonner, pour que mon discours soit accessible vraiment à tous, parce que c'est mon objet, des demandes qui sont adressées à une consultation donc, de pédopsychiatrie, c'est-à-dire pour des enfants de 0 à 15-16 ans, dans des centres que nous on appelle médico-psychologiques, c'est-à-dire d'accès absolument gratuit. On me demande pas de justificatif du domicile ou quoi que ce soit aux gens. On leur demande simplement s'ils ont une carte d'assurance maladie, dont on prend le numéro pour la comptabilité de l'hôpital de référence. S'ils n'ont pas de carte, on se débrouille. Donc il n'y a pas, a priori, il n'y a pas d'obstacle à l'accès de ces centres, qui sont tous situés dans des pavillons de banlieue absolument banalisés. donc qui ne sont pas repérés comme des lieux de folie ou des lieux d'exclusion. Alors, pourquoi je parle de ces domaines? Parce que pour moi, ça, en tout cas de ma place de pédopsie, ça me donne une assez bonne idée des problèmes que les enfants posent actuellement aux adultes. Parce que les adultes viennent nous demander des consultations quand ils ont des problèmes avec leurs enfants. Voilà la place de laquelle je parle et voilà mon propos. Et depuis ce poste d'observation, donc de banlieue parisienne très ordinaire, il apparaît d'emblée pour un consultant que l'exposition des enfants à la violence est très fréquente et qu'elle est lourde d'effets pathogènes, au moins pour les plus fragiles d'entre eux. Et cela, paradoxalement, dans une société où les adultes affichent une volonté particulièrement forte de protéger les enfants, que ces adultes soient parents, enseignants, éducateurs ou politiques. Et ce qui m'est apparu important, c'est ce décalage entre un souci proclamé, exacerbé de protection de l'enfance et la réalité concrète vécue par ces enfants, au niveau de la violence. Donc ça m'a amené à m'interroger, mais quelle place a l'enfant dans le fonctionnement social? Alors, je vais préciser tout de suite que quelquefois je dirais CMP, hein, pour centre médico-psychologique, pour aller plus vite, et que j'emploierai le terme psy pour des consultants, qu'ils soient psychologues ou psychiatres, parce que dans une approche globale comme celle que je vais avoir, ça n'a pas d'incidence. Hein. Alors, déjà la place de la pédopsychiatrie en France, je n'ai pas commencé en Belgique, mais elle est très, très importante numériquement, ce n'est pas un phénomène marginal. En 2001, Bernard Kouchner, qui était alors le ministre, avait cité 370 000 enfants suivis, enfants et adolescents, à ce moment-là c'est de 0 à 18 ans, mais 370 000 suivis par les services de psychiatrie publique. Et on évalue entre 5 et 10% l'augmentation du nombre de demandes par an. Donc vous voyez, on arrive à plus de 400 000 actuellement, donc ce n'est pas un phénomène marginal, hein, on n'est pas aux marges de la société. Alors, en contrepartie de cette augmentation de la demande, il n'y a absolument pas d'augmentation de moyens. Hein. Depuis 1989, les effectifs de la psychiatrie publique ont plutôt régressé de 5 ou 10%. Hein. Donc, vous imaginez que ce sont des centres sur lesquels il y a une énorme pression de demande et une impossibilité matérielle de répondre à tout. Donc, il faudra tenir compte de cette réalité de pression dans les observations que je vous donnerai. Hein, en sachant que quand on traite un enfant, moi, là où je travaille actuellement, il y en a 80 en liste d'attente, dont certains ont fait des tentatives de suicide, présentent des états délirants, sont maltraités, enfin voilà. Hein, donc il y a une pression constante sur ces centres qui se situent vraiment au cœur de la cité et de la demande sociale. Hein. Alors, autre prolégomène, les garçons sont surreprésentés. Dans les consultations tout venant, de 0 à 18 ans, on compte 181 garçons pour 100 filles. Cette surreprésentation augmente avec la gravité du diagnostic. C'est-à-dire que si on prend les filles actives des hôpitaux de jour ou des centres d'accueil à temps partiel, on a entre 80 et 90% de garçons qui sont accueillis dans ces centres. Ça, c'est une donnée qui est constante. Bon, j'ai des rapports d'activité de 2005, on pourra en discuter si vous voulez. Mais alors, ce sex ratio qui est constaté et qui, à mon avis, n'a pas été encore vraiment théorisé, personnellement, me pose question également. Hein. Donc c'est une question que j'aimerais bien pouvoir discuter. Pour fixer un peu le panorama, la scolarisation de ces enfants qu'on suit est pratiquement toujours maintenue. 91% des enfants suivis sont scolarisés, dont 78% milieu ordinaire. Donc là encore, on n'est pas dans la marginalité, on est face à des enfants de la cité. Alors, évidemment, on s'interroge, on se dit pourquoi autant de demandes, pourquoi ça augmente. Bon, moi, de ma place, je pensais que cette augmentation d'activité et de demande était liée en fait avec l'extension du champ de la pédopsychiatrie et l'apparition de nouveaux types de demandes depuis une quinzaine d'années. J'en ai répertorié trois qui sont apparues les plus fréquentes dans les centres où je travaille. D'abord, les demandes pour des enfants de moins de 4 ans, qui sont actuellement assez massives. En deuxième lieu, les demandes pour des enfants qui ont été confrontés à des situations dites traumatiques. Et en troisième lieu, pour des difficultés scolaires. Alors, je vais essayer maintenant de voir pour chaque situation pourquoi on nous les adresse et quel type de représentation fait qu'on nous les adresse à nous, pédopsie, plutôt qu'à je sais pas qui. Alors, d'abord pour le traitement des enfants de moins de 4 ans. Je laisse de côté les pathologies gravissimes qu'on a toujours adressées à la pédopsychiatrie, ça c'est un classique. Mais actuellement, cette arrivée massive d'enfants de moins de 4 ans dans ces centres de consultation est à mon avis liée à la formation récente des professionnels de la petite enfance qui sont formés au repérage des signes précoces eux-mêmes qui traduisent des difficultés psychiques. Donc, ils sont plus avertis des difficultés des enfants quand ils repèrent des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, ou à partir de 3 ans, des troubles du langage ou des refus scolaires. Ils tirent la sonnette d'alarme, demandent aux parents de nous les adresser. Tout ce repérage s'appuie sur tout le travail de réseau qu'a fait la pédopsychiatrie depuis une vingtaine d'années pour former ces professionnels et les aider à adresser les enfants. Alors, pourquoi c'est possible? Pourquoi ça marche? À mon avis, ça marche parce que les professionnels et parents sont d'accord pour interpréter ces manifestations qui sont avant tout corporelles au début, hein, des anorexies, des troubles du sommeil, des cris, comme des signes de souffrance psychologique qui nécessitent une prise en charge, qui ne vont pas se résoudre tout seul. Et alors, quand on les voit arriver dans la pratique, les consultants, ils observent des troubles d'allure somatique, mais effectivement des dysfonctionnements relationnels graves chez ces bébés ou ces petits-enfants, accompagnés après, presque à coup sûr d'altérations déjà formées du fonctionnement familial qui se centrent pathologiquement sur ce problème. Des relations fusionnelles se sont déjà instaurées, des empiètements également. Ce qu'on constate aussi, c'est que si les propositions de traitement sont suivies, les améliorations sont assez rapides et notables, tant du côté de l'enfant qui reprend le cours de son développement, que du côté des proches qui retrouvent leur place respective. Alors, que penser de ces arrivées en nombre de petits enfants? Vous pensez deux choses. Et là encore, c'est soumis à discussion. D'abord, parce qu'on voit de plus en plus précocement des enfants porteurs de pathologies qui vont évoluer vers des troubles autistiques, vers des psychoses, vers des névroses graves. Enfin. Et donc, les voir plus tôt, ça permet d'intervenir et d'infléchir une évolution et d'arriver à des résultats moins pathologiques. D'autre part, et là c'est mon ancienne expérience de psychiatre d'adulte qui parle, c'est que quand on reconstruit les anamnèses des psychoses d'adultes, on retrouve ça assez souvent dans la petite enfance, des troubles graves du sommeil, des dysfonctionnements extrêmement précoces qui se sont mis en place, accompagnés de dysfonctionnements relationnels familiaux qui se sont mis en place dans les premières semaines ou les premiers mois. Alors, traiter ces petits dès le départ, est-ce que ça n'aura pas dans le futur un impact de prévention dans l'installation de tableaux de psychoses adultes? C'est une question que je me pose pour confronter ça avec des études. Ceci me paraît d'autant plus important que dans notre expérience en tout cas, quand un tableau de psychose adolescente ou adulte est constitué, l'accès aux soins, l'acceptation du soin par le patient et par sa famille est toujours extrêmement difficile et ne s'opère assez souvent que dans des moments d'urgence. C'est-à-dire que quand le tableau psychotique est constitué, le déni est constitué et l'accès aux soins est très compliqué. Donc peut-être que ces soins de petits vont modifier un peu ces engrenages dramatiques. Voilà, alors ça c'était la première chose. Maintenant, deuxième demande qui monte en charge, les consultations motivées par des événements dits traumatiques. Alors, d'un côté, il y a les tentatives de suicide, les actes agressifs à l'égard d'autrui qui, depuis 15 ans, aboutissent le plus souvent à une demande de soins psychologiques. Ça, je ne vais pas en parler. Ce qui apparaît plus nouveau, c'est les appels urgents au CMP par des parents, par des enseignants, par des proches, qui appellent pour qu'on voit très rapidement un enfant ou des enfants ou une famille entière après un incendie, après un accident, après l'hospitalisation en psychiatrie d'un des parents. Et à chaque fois, le coup de téléphone, c'est une demande d'aide dans un moment de débordement familial. C'est-à-dire, je sais pas quoi faire, mon fils ou ma fille parle plus, pleure tout le temps, a des cauchemars, il faut nous voir tout de suite. Alors, une fois qu'ils arrivent à la consultation, qu'est-ce qu'ils demandent, ces parents? En fait, ce qu'ils demandent, c'est l'assurance que cet événement ne va pas entraîner de séquelles psychologiques pour leur enfant, et que s'il y a besoin, ils se déclarent prêts à faire tout ce qu'il faut pour éviter ces séquelles. Et ils s'adressent aux spécialistes, pédopsie ou psychologues, pour répondre à cette interrogation. Alors, le problème pour le consultant, c'est que lui, il sait qu'il est impossible de prédire dans l'immédiat après-coup s'il y aura des séquelles ou non. Bon, en dehors des cas extrêmement rares, il constate un tableau psychiatrique d'emblée. Pour le consultant, ce sont les remaniements psychologiques qui vont suivre cet événement, qui vont s'étaler sur plusieurs mois, qui dépendront à la fois de la personnalité du patient, de son histoire antérieure, des appuis qu'il va pouvoir trouver, qui vont déterminer s'il y aura séquelles ou pas, ou s'il y aura pathologie ou pas. Donc, le praticien, il est saisi en urgence pour une expertise qu'il ne peut pas rendre. Parce que pour lui, l'évolution, elle n'est pas programmée d'avance. Alors, qu'est-ce que font, en tout cas, dans mon entourage, les psys dans ce cas? Ils reçoivent, ils écoutent le récit, ils ont un gros travail de réassurance quant à la normalité des manifestations émotionnelles, réactionnelles, notamment des enfants. C'est-à-dire que les psys sont amenés à dire que un enfant de 3 ans qui a vu quelque chose de grave peut être agressif, peut avoir des cauchemars, peut pleurer. Ils doivent aussi donner quelques repères pour qu'une nouvelle consultation soit demandée s'il y a besoin dans l'avenir. Alors, c'est un travail d'accueil, de repérage, de soutien qui ne pose pas de problème en lui-même et qui se développe inévitablement dans des cultures où il n'y a plus d'interlocuteurs traditionnels comme le curé, je sais pas, la vieille amie, la tante. On pouvait peut-être aller voir avant. Et les psys vont essayer d'être professionnels dans ces situations, de bien faire leur travail, là il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois que je suis amenée à faire ce type de travail, moi je me demande ce que peut ressentir un enfant dans ce type de circonstances. Je me dis, est-ce que c'est pas étrange, insécurisant pour un enfant, que ce soit le psy qui ne connaît pas ses parents, qui soit là en place, l'expert, pour expliquer qu'on peut pleurer, on peut avoir peur, on peut avoir des cauchemars quand on a vécu quelque chose de dramatique ou d'un peu traumatisant. Et que ce soit le psy qui dise, ça, tout ça, c'est le travail d'élaboration psychique qui est destiné à faire face à la situation sans effondrement. On est plutôt dans la lutte. Est-ce que ces enfants n'attendraient pas que cette réassurance leur vienne de leurs parents ou de leurs proches? Est-ce qu'ils n'attendraient pas que ce soit les parents qui leur disent tu pleures parce que tu es triste ou tu es en colère parce que tu n'es pas d'accord? Et comment vont-ils s'identifier à ces parents si, dans les moments où ils en ont vraiment besoin, où il y aurait un discours humanisant à poser, le parent va voir l'expert? C'est une question que je me pose à chaque fois, d'autant plus que le psy, ne connaissant pas la famille, ne peut pas l'intégrer dans l'histoire familiale, dans l'histoire des proches. Autre remarque, ce psy peut avoir une urgence dans un tableau, dans des circonstances post-traumatiques, c'est pas un proche que les enfants reverront forcément ou qu'on continuera à fréquenter. La consultation demandée en urgence ne crée pas un lien significatif avec l'enfant et sa famille. Dans mon expérience toujours, ces consultations débouchent extrêmement rarement sur des véritables suivis. même lorsque les adolescents le demandent. Ce sont les parents qui décident de la mort, les parents qui décident de l'interruption quand ils jugent que les symptômes ont disparu. Donc cette consultation possède un caractère consumériste, hein, on a le droit, on a souffert, on a vécu quelque chose de grave, donc on a le droit d'être soutenu, mais peut-être qu'on prive à ce moment-là l'enfant de quelque chose qui pourrait aussi avoir droit dans un autre registre. Alors, autre remarque qui me paraît importante, c'est qu'à l'occasion de ces consultations, il arrive que le psy repère des éléments psychopathologiques qui préexistaient au traumatisme et qui pour lui seraient une indication de traitement. Mais à chaque fois, j'ai remarqué que le passage d'une démarche à l'autre était extrêmement difficile et que les mêmes parents qui demandent la consultation post-traumatique me refuseront assez souvent le suivi pour les troubles psychologiques repérés. Comme si là aussi le mécanisme de déni, d'évitement du psy se mettait en place immédiatement. Voilà. Alors là, pour illustrer un peu mon propos et le rendre un peu plus vivant, j'ai amené des observations sur le thème dont je vous parle. Donc là, j'ai une observation d'un enfant de 12 ans que j'ai vu dans le cadre d'une consultation post-traumatique. Hein. Donc on reçoit un appel d'une mère qui demande un rendez-vous d'extrême urgence. Elle sort de la brigade des mineurs, son enfant a été agressé. Elle décrit un enfant qui a 12 ans, qui est prostré au domicile, qui ne parle plus, qui ne s'alimente plus après une agression sexuelle. Et elle insiste beaucoup sur le fait qu'elle ne sait pas comment réagir, qu'il faut les voir tout de suite. Donc, le secrétaire me passe le téléphone, ça je l'appelle. Moi, je lui propose un rendez-vous le jour même. Et elle m'explique que c'est absolument impossible de se déplacer le jour même, et elle arrivera au CMP avec son fils 10 jours plus tard. Donc ça, c'est un grand classique, c'est que le rendez-vous en urgence, en général, c'est 8-10 jours plus tard, une fois qu'on a eu les gens au téléphone. Alors, et elle accompagne ça en disant, on a décidé de partir en week-end pour se remettre en famille, et elle me demande si c'est bien de faire ça. Moi, dans le monde, j'ai compris que c'était elle et son mari, père de l'enfant, donc je ne vois pas pourquoi je dirais que c'est mal, hein, donc là, 10 jours plus tard. Bon. Alors, je vois un enfant de 12 ans, Maxime, hein, qui est abattu, triste, mais qui répond quand même à mes questions, qui se met à pleurer quand il évoque l'agression. Il me dit qu'il s'endort très difficilement, que dès qu'il est endormi, il fait des cauchemars au cours desquels il est menacé, qu'il ne mange presque plus. Dès qu'il rentre chez lui, il s'enferme pour ne voir personne, n'entendre aucun bruit. Il se force tout de même à aller au collège. Au collège, il s'isole car il ne supporte plus les autres. Il a des difficultés de concentration. Alors, c'est un très bon élève, ses notes ont beaucoup chuté. Et il va au cours, simplement, il n'a pas le courage de participer au cours de gymnastique. Bon, cependant, il est disponible pour un bref échange et il me dit que lui, il essaye de se remettre de ce qui lui est arrivé. Il essaye de penser à autre chose et il accepte l'idée de revenir la semaine d'après parce que la mère avait fixé que ce n'était pas possible de le voir plus fréquemment. Donc, la semaine d'après, il dit quand même que s'il y a un problème, il peut rappeler, il peut revenir, donc ça le rassure. Alors, dès ce premier entretien, moi, je suis assez inquiète. Pas forcément par le tableau post-traumatique, hein, mais par des éléments là, qui sont comme ça dans la série obsessionnelle. C'est un enfant qui est obséquieux, qui est froid, qui donne des précisions dans son récit, avec un souci du détail, qui intellectualise beaucoup, qui isole ses affects. Bon, je dis, il y a peut-être autre chose. Alors, mais il est impossible d'en parler avec sa mère, que j'ai appelée Madame P, qui elle apporte beaucoup d'éléments sur l'agression sexuelle et ce qui l'envahit à ce moment-là. Donc en fait, c'est un viol qui a eu lieu au domicile, parce que Maxime a fait rentrer l'agresseur chez lui pour lui montrer son nouveau jeu vidéo. Donc Madame P, après, il a appelé sa mère, Madame P a porté plainte le jour même. Cet agresseur, qui ne sera jamais nommé hein, dans le suivi, lui-même est âgé de 15 ans. Il habitait un hôtel social situé en face de leur domicile. Ce qui est douloureux pour Maxime, c'est que ce jeune a nié les faits lors de sa garde à vue et lors de sa confrontation avec Maxime, ce qui ébranle beaucoup Maxime, qui se dit « on ne me croira jamais ». Il doit y avoir un jugement quelque temps après. Alors en fait, là, j'apprends qu'elle élève seule son fils et que eux, on a décidé de partir en week-end pour se remettre en famille, c'était elle et son fils. Donc ça change un petit peu ma vision des choses. Et elle va entamer une recherche en paternité. Ça, c'est très important pour elle. En fait, sa question à ce moment-là, c'est le traumatisme de l'agression sexuelle, surajouté à l'émotion suscitée par la recherche de paternité, auront-ils des conséquences préjudiciables pour Maxime, en sera-t-il perturbé ? C'est sa question qu'elle me pose. Moi, de mon côté, j'aurais d'autres questions à lui poser, mais je ne les pose pas. Et je ne perçois aucune empathie vis-à-vis de cette mère pour son fils, qui manifeste pourtant des signes de souffrance psychique intense à ce moment-là. Et elle paraît fixée sur les procédures qu'elle a entamées et elle ne bouge pas de ça. C'est la procédure contre l'agression sexuelle et la procédure contre le présumé père. Bon, là, on revient la semaine d'après quand même. Lui, il est un peu moins abattu. Il est d'accord pour revenir me revoir dans des entretiens hebdomadaires. Je commence à dire que ça va peut-être durer quelques mois. J'essaie de baliser. Le jugement est reporté. Madame P m'a dit que l'agresseur de Maxime avait encore récidivé, alors qu'il est venu d'être foyer. Il est placé dans un foyer qui reste proche de chez eux, donc c'est une menace qui reste pour Maxime. Et elle explique aussi que son ami à elle a disparu dans les jours précédant l'agression de son fils. C'est un homme qui lui avait fait beaucoup de cadeaux. C'est lui qui avait offert à Maxime le fameux jeu vidéo et qui leur avait promis des années à Los Angeles, mais elle vient d'apprendre qu'il a disparu, qu'il vient d'être arrêté et qu'en fait c'était un escroc. Alors bon, les rendez-vous suivants sont marqués par des particularités. Le rendez-vous d'après, je vois personne arriver et c'est Madame P qui me téléphone à l'heure du rendez-vous pour un entretien téléphonique avec elle. Donc elle me dit qu'en fait Maxime ne peut pas venir, il a eu une crise de larmes quelques jours avant et il lui a dit qu'il n'en pouvait plus, qu'il voulait tout arrêter, les entretiens, les démarches judiciaires, que c'était trop lourd pour lui. Elle, sa question, c'est que doit-elle faire ? Mais elle n'a pas amené, hein, donc on reprogramme un autre rendez-vous. Il me rappelle à l'heure de mon rendez-vous d'après, c'est lui qui me rappelle, il me dit « on est occupé hein, ». Je comprends que « on est occupé », c'est avec sa mère, mais il demande quand même à me parler. Donc il me dit qu'il a été découragé, qu'il a eu une crise la semaine d'avant, qu'il ne pouvait vraiment pas venir, que là il est encore assez découragé, mais qu'il va revenir. Bon, il finit par revenir accompagné par sa mère et lui explique qu'il commence à prendre quelques distances avec son agression, qu'il a réinvesti sa scolarité, il recommence à jouer, il a fait une prison en Lego dans sa chambre et il m'explique qu'il sera vraiment soulagé quand le jugement sera prononcé et que son agresseur n'habitera plus dans la même ville. Bon, Madame P reste sur ses positions, c'est-à-dire qu'elle me reparle de ses procédures, de sa vie amoureuse, du fait que c'est gênant d'avoir un fils quand on a un amoureux chez soi. Enfin, c'est difficile de dialoguer. Alors, après, les entretiens sont repoussés encore pendant 3 semaines, à chaque fois avec un coup de téléphone. On tient quand même à vous rassurer, hein, c'est soit lui, soit sa mère. Donc, il commence à aller mieux, mais il ne peut toujours pas vraiment venir. Et au bout d'un mois et demi, il commence à pouvoir venir régulièrement et seul. Et il m'explique que lui, ce qui l'intéresse là, c'est d'essayer de comprendre ce qui est arrivé. Donc il lit des articles de psychologie pour essayer de comprendre la personnalité de son agresseur. Lui-même a subi une expertise psychiatrique dans le cours de la procédure pour cette agression. Et peu à peu, il désinvestit un peu cette histoire et il me raconte d'autres choses. Et notamment, il commence à adopter une position critique vis-à-vis de sa mère. C'est-à-dire, il me dit qu'il ne comprend pas pourquoi, après son agression à lui, sa mère a pris plusieurs mois d'arrêt de travail, alors que lui a fait énormément d'efforts pour continuer d'aller au collège et de continuer à apprendre. Ça lui pose une question importante qu'on travaille en consultation. Le travail commence à être sur le mode de la distance par rapport à son histoire familiale, et c'est là qu'il m'explique qu'en fait il connaît son père. Donc il y a une recherche en paternité, mais en fait il connaît son père. Il le voit assez souvent. Ouais. Alors, ce beau travail est vite interrompu par un appel en urgence de Madame P à l'heure d'une consultation auquel je ne viens pas, pour m'expliquer que ça va très mal et qu'il faut que je la reçoive en urgence avec son fils. De toute façon, c'est une fois par semaine, c'est prévu, donc il n'y a pas de problème, donc il revient à la fois d'après. Donc là, elle me dit, c'est son fils qui pose problème, il est très agressif, elle a dû changer de collège, comment ça se fait? Et puis ce qui est encore plus embêtant, c'est que quand elle amène son amoureux à la maison, celui-ci a des enfants, et donc Maxime est agressif, notamment avec les enfants, et que ça, c'est très compliqué. Et puis si je pouvais l'aider à ce niveau-là, ça arrangerait bien les choses. Alors, quand même, un entretien où en soutenant Maxime, il arrive à exposer à sa mère les raisons de son agressivité et ce que peut ressentir un enfant de 12 ans quand il voit débarquer les relations de sa mère avec les enfants et l'envahissement que ça comporte. Et voilà, ça a au moins servi à ça, cet entretien. Alors, il continue plusieurs mois et il travaille beaucoup l'histoire de relations avec les autres, c'est-à-dire que il n'arrive pas à trouver un moyen terme entre la proximité avec les autres qui l'irritent immédiatement et l'isolement, le retrait qui s'ensuit, et l'impossibilité d'avoir des échanges avec des enfants de son âge. Ils les trouvent débiles, ils ne comprennent rien, ils ne sont pas cultivés. Et ce qu'il explique de fondamental, c'est que l'agresseur, en fait, c'est le seul ami qu'il ait connu dans sa vie. Il a caché sur ce gamin et il s'est dit là, c'est mon ami, j'ai rencontré quelqu'un en qui je peux avoir confiance, avec qui je peux avoir une relation. Il m'a fait monter chez lui pour lui montrer son nouveau jeu, ce qui m'est arrivé. Donc on travaille toutes ces choses-là et il continue de travailler aussi la distance, une certaine distance avec sa mère qui est en train de traverser une période de rupture avec la mère. D'autre part, il formule un projet professionnel, c'est un élève brillant, hein, c'est absolument pas de problème vis-à-vis du collège, et il veut devenir généticien. Donc on travaille sur les origines, la paternité, bon, c'est un travail qui avance, qui porte ses fruits. Alors, ça ne pouvait pas durer, comme je vous dis, nouveau mouvement de recul. Il a mis deux rendez-vous en disant qu'il n'est pas très bien, il est découragé, mais qu'il va revenir, qu'il faut me rassurer. Et Madame P m'appelle la deuxième fois sur un ton dramatique, elle me dit là, il faut absolument que je vous vois, j'ai besoin d'un conseil urgent. Au revoir avec Maxime. Alors, lui, il me dit, je me sens bien maintenant, je vais interrompre les entretiens. Et Madame P me dit, voilà, je vais interrompre avec vous, moi je ne sais pas quoi faire, c'est à vous de décider, vous me dites ce qu'il faut faire, je le ferai. Alors moi, à ce moment-là, je dis, bon, tout ce qui est douleur post-traumatique, on allait plus loin, c'est élaboré, et plus dans ce moment-là. Et par contre, il y a des éléments qui me font craindre, des difficultés au niveau des relations avec les autres, des investissements des autres. Et moi, je propose un travail psychothérapique pour Maxime. Alors, Madame P me dit que j'ai tout à fait raison, que c'est bien comme ça, mais il n'y a absolument aucun dialogue qui peut démarrer. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, elle acquiesce immédiatement, sans question, comme si c'était une manière d'éviter de discuter des difficultés de son fils, que j'ai pourtant pointé parce que je me suis dit là, c'est le moment, il faut y aller. Mais j'ai décrit les rituels que je voyais, les psychiosités, la froideur. Bon, j'ai dit que moi, ça me posait une question en termes de personnalité, qu'une thérapie était indiquée. Bon. Et en fait, donc elle me dit oui, vous avez d'accord, vous avez raison, Maxime, tu es d'accord, oui, tu es d'accord, donc tu commences une psychothérapie. Et elle enchaîne sur la question qui reste fondamentale pour elle, c'est est-ce que je peux valider sa recherche de paternité? Parce que là, elle a un avocat, enfin, il y a tout un truc de procédure, elle a vu un juge, enfin, tout un truc de procédure qui est en place, et maintenant elle doit dire dans les jours qui viennent si ils font des prélèvements ADN ou pas. Donc, c'est sa question, et c'est là-dessus qu'elle veut que je réponde. Donc, évidemment, moi, j'ai beaucoup de mal à répondre, à part que je lui dise que c'est une question d'adulte, et que je ne vois pas pourquoi elle demanderait aussi à Maxime son avis. Mais bon. Alors après cette séance, il y aura encore deux fois. Ce sera les deux dernières. Le traitement sera interrompu après. Donc, et là, dans ces deux dernières séances, ces rituels deviennent absolument apparents. C'est-à-dire que je les avais un petit peu vus et tout ça, mais ils se cachaient. Alors qu'après l'avoir parlé à sa mère, là, ils sont apparents. C'est-à-dire qu'il fait trois fois le pied de la porte pour rentrer dans le bureau. Enfin, c'est quelque chose quand même assez fixé, assez inquiétant. Il a 13 ans, là. Hein, donc il les montre, tout en disant que tout va bien, qu'il a discuté, on a discuté encore une fois, et on a un projet de vacances. Voilà. Avant de partir, avant de finir ce traitement, donc il me parle à l'oignon de son père, qui est un médecin, pas généticien, hein, mais cardiologue, qui s'occupe du cœur. Et lui, il a construit son père en se disant, finalement, mon père, il n'aime pas sa femme, parce que son père avait une double vie. Il avait une femme officielle avec des enfants officiels, et puis cette dame, en fait, il savait très bien qui était son père, elle savait très bien qui était le père de son enfant, mais il fallait la signer en justice pour la recherche de paternité, pour prouver sa place, quoi, en gros. Hein, donc, alors, ce père, en fait, pour Maxime, il n'aime pas sa femme, il n'a pas de satisfaction dans sa vie, il n'aime pas trop ses enfants, il évite de dire qu'il n'aime pas trop lui non plus. Il dit que son père, il est très occupé et qu'il passe son temps à faire des gardes, comme ça, il n'est ni chez l'une, ni chez l'autre, et que ça continue comme ça. Mais ce n'est pas un père investi une représentation de père. Je pense que cette femme attendait ce jugement de paternité pour que le père ait une place de père. Hein. Malheureusement, le traitement s'arrête comme ça. Hein, donc, puisqu'on a décidé de partir en vacances et on vous rappellera si on a besoin. Donc, les questions importantes ont certainement été posées dans ce traitement qui n'est pas une thérapie, hein, qui est juste un suivi de consultation. Mais moi, ça m'a quand même amené à poser la question de la protection de l'enfance dans ces situations-là. Hein. Donc, il a bénéficié de l'intervention de la brigade des mineurs, des services judiciaires, il y a eu jugement, son agresseur a été poursuivi, hein, il n'y a pas eu de problème. Il a bénéficié d'un travail thérapeutique au CMP, mais là, on se retrouve quand même dans une situation où cette agression a été surdéterminée par l'histoire familiale, qui le mettait en risque de subir ce type d'agression. Donc, nous, la justice, et nous, on est arrivé bien après ça. Et la protection officielle est arrivée bien après la surdétermination de cette agression. Et ça pose quand même une question sur la protection de l'enfance. Est-ce qu'on protège après? Est-ce qu'on protège avant? Comment? Et d'autre part, ce traitement a été interrompu alors qu'il y avait indication. Donc là, de quoi a-t-il été protégé aussi? Là, ce sont les questions que ce type d'histoire me suggère. Sur un affichage de protection, une protection concrètement mise en place, mais de quoi protège ton enfant et jusqu'où peut-on le protéger? Où a-t-on le droit de le protéger? Hein, c'est, alors, je retrouve, voilà. Alors, maintenant, en dehors de cette histoire où il y a quand même une pathologie familiale au départ, quand on voit les gens dans les situations post-traumatiques, il n'y a pas toujours une pathologie familiale, hein, mais par contre, il y a une demande pressante. Moi, je me suis interrogée sur le véritable motif qu'anime ses parents en pareille circonstance. Alors, la première réponse, c'est de se dire, bon, ils sont démunis, ils sont débordés, ils demandent à travers leur enfant un soutien pour eux. Ça, c'est un premier niveau de réponse. Mais je me dis aussi que ces parents sont prisonniers aussi des idées qu'on a actuellement sur les enfants et qui sont placés dans l'impossibilité de répondre par eux-mêmes. C'est-à-dire que ces parents, ils ont été élevés par des parents qui les ont élevés comme ils pouvaient, avec les idées de l'époque, mais on trouvait moins de questions et les relations étaient moins affectives, donc on voyait moins de choses. Donc les parents actuels ne peuvent pas s'appuyer sur ce qu'ils ont reçu de leurs parents pour exercer leur rôle parental, et c'est ce qu'ils disent en permanence dans les consultations. Moi, on m'a élevé comme ça, mais je ne veux pas faire comme ça. C'était pas bien, j'ai pas reçu assez d'assélection, on n'a pas fait attention à moi, je ne veux pas. Je veux faire autrement. Alors, c'est vrai, en même temps, c'est très compliqué, parce que ça remet en cause toute la place de la transmission à l'intérieur des familles. Et j'ai l'impression que cette transmission, laisse la place petit à petit à des notions telles que le respect de l'enfant, la protection et l'épanouissement. Et que ça modifie toutes les relations à l'intérieur des familles. C'est-à-dire, en forçant le trait un peu, ces parents ne peuvent pas s'appuyer sur leur référence passée. Donc ils sont en difficulté parce qu'ils ne peuvent pas puiser dans leur patrimoine, hein, en gros. Donc ils ont une grande difficulté à communiquer directement avec leurs enfants, avec leurs mots, parce qu'il n'y a pas de pattern de tout fait. Et à ce moment-là, le recours au spécialiste, le recours à l'expert s'impose, parce que lui, il va savoir ce qu'il faut dire dans ces cas-là. Et il y a aussi une autre idée, c'est qu'on investit beaucoup les enfants, ils sont idéalisés, c'est le but. C'est souvent quand même le but de la vie, hein, au moins dans le temps de la parentalité. Et la question, elle devient monstrueuse. C'est-à-dire cet enfant à qui je donne tout mon amour, tout ce que j'ai comme argent, à qui j'achète tout ce que je peux, vraiment, je lui voulais un long fleuve tranquille, hein, comme vu. Et là, il arrive quelque chose de monstrueux qui me fait souffrir. Et ça devient monstrueux, parce que cet enfant, je le voulais sans accident de parcours. Et si en plus, ça va me donner des séquelles, alors là, c'est inacceptable. Voilà un petit peu les réflexions qu'on peut se faire plus généralement à propos de ces événements, hein, en dehors de toute pathologie familiale. Hein. C'est-à-dire, on veut protéger les enfants des épreuves de la vie, et pourtant, il y a eu cette chose horrible, et pourtant, il en souffre, et peut-être qu'il en sera marqué. Donc là, c'est inacceptable. Donc, troisième motif d'augmentation des demandes, c'est les difficultés scolaires. Alors, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, à peu près la moitié des demandes, c'est qu'il n'obéit pas, il n'apprend rien en classe, mais pourtant il y a des capacités. Donc, c'est ce qui est écrit à la secrétaire. Alors, évidemment, là aussi, classiquement, on voit l'enfant, alors quelquefois, il s'agit de problèmes d'inhibition névrotique, de pathologies psychotiques ou de troubles instrumentaux. Donc là c'est toute l'équipe pluridisciplinaire du CMP joue son rôle. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais à peu près dans la moitié des cas, on se retrouve face à un enfant qui, a priori, ne présente pas les problèmes classiques. C'est-à-dire pas de problème névrotique, psychotique, pas de trouble instrumental, pas de déficience. Voilà. Tout semble aller bien, et pourtant l'école est un échec. Et pas que l'école en général, les apprentissages en général, y compris le sport. Hein, Alors, là encore, je me suis dit, mais alors pourquoi on nous les adresse? Parce que le pédopsie, on n'apprend pas, c'est pas. Le lien n'est pas évident. Alors, je pense que c'est fondé sur une représentation commune, là, qu'ont à la fois les enseignants et les parents. C'est-à-dire que si un enfant intelligent, normalement, n'apprend pas, c'est qu'il a un problème psychologique. Il doit être bloqué ou agité par un problème dont il ne parle pas à ses parents. Donc, ils ne peuvent pas agir dessus, ni aux enseignants. Mais on suppose qu'en allant voir le psy, il s'épanchera plus facilement, que le problème va sortir, donc va pouvoir être résolu, et que le psy pourra même soit deviner, soit lui faire dire ce qu'il n'arrive pas à dire. C'est une idée de représentation comme ça. Alors, pour le consultant, la représentation est tout autre. Donc il voit l'enfant, lui, il pense que c'est un problème éducatif, les parents n'ont pas réussi à poser les limites claires et cohérentes. En fait, les manifestations sont des manifestations d'opposition, d'intolérance aux frustrations. La famille n'a pas été capable de leur transmettre les règles élémentaires de socialisation. Alors ça, c'est un premier niveau d'analyse, hein, bien sûr. Hein, et bon, puis en plus, on sait aussi qu'actuellement, poser les interdits, les faire respecter, c'est un lourd travail quotidien pour les parents, qui était certainement moins lourd avant. Hein. Donc, déjà, c'est un deuxième niveau d'analyse. Pas forcément les parents pathologiques, les familles pathologiques qui peuvent poser ces interdits, mais c'est tellement difficile actuellement que ça diffuse dans l'ensemble du corps social. Alors évidemment, dans quelques cas, on est face à des parents marginaux qui n'ont jamais obéi à aucune loi, donc on ne voit pas pourquoi leur enfant obéirait à une loi, mais ça, je ne vais pas en parler non plus. Hein. Alors, si on essaie de comprendre pourquoi c'est difficile, il y a aussi pourquoi c'est difficile pour ces enfants d'apprendre à l'école, même quand ils sont intelligents, qui n'ont pas de problème spécial et que leur famille n'est pas particulièrement pathogène, c'est que le rapport de leurs propres parents au savoir et aux contraintes s'est modifié là, depuis ces 10-15 dernières années, et que c'est aux conséquences de ces phénomènes qu'on est confronté. En fait, on a quand même l'impression en consultation que la frustration, elle a perdu sa qualité d'épreuve structurante. Alors que nous, on s'appuie beaucoup là-dessus dans nos traitements. Voilà. Donc, il s'ensuit comme une espèce de brouillage des repères éducatifs pour ceux qui se retrouvent en position de parent. Parce que tant qu'on n'est pas parent, ça va à peu près, mais en position de parent, ça commence à choper. Donc, pour beaucoup de parents, et c'est assez partagé, imposer une frustration, ce n'est plus l'aider à différencier ce qui est permis, possible, à se dire, bah, il ne peut pas maintenant, mais justement, dans sa tête, il va élaborer des scénarios d'avenir, il va se projeter, il va se dire que quand il sera grand, bah, enfin, il va réussir, et puis que quand il aura quitté ses parents, ça ira mieux. Non, maintenant, c'est interprété comme infliger une violence, et à la limite, se conduire comme un parent maltraitant. En tout cas, non et non. Et les signes d'intolérance à la frustration qu'inévitablement les enfants manifestent, c'est-à-dire les colères, les cris, les pleurs, là, dans ce registre, sont interprétés comme des signes de souffrance psychique, et non pas comme un moment nécessaire pour élaborer la frustration. C'est-à-dire, on dit souvent, oui, mais quand je vous dis non, il se met à pleurer, il se roule par terre, il a des grosses larmes, et puis il finit par me dire, je t'aime plus, t'es méchant, de toute façon, je vais te dénoncer, tu m'as donné une claque. Donc, en fait, frustrer un enfant, maintenant, ça, c'est à peu près équivalent à risquer de perdre son amour et lui infliger une violence. Alors, évidemment, c'est insécurisant pour l'enfant, parce que pour lui, comme ce qui se fait pas est déterminé par ce que disent et font ses parents, ça devient compliqué à interpréter. Et il est peut-être amené, cet enfant-là, à se dire que finalement, le monde est manœuvrable par ses cris, ses pleurs, ses sourires, ses séductions, puisque ça marche dans sa famille. Et là, en allant plus avant, on se dit, mais quel type de relation va-t-il construire sur ces bases-là? Est-ce que ça ne va pas être des relations de proximité qui vont osciller entre menaces, séductions, et surtout des relations qui ne prennent pas en compte l'idée que l'autre, en face, il a son propre système de référence, si c'est un parent, si c'est un enseignant. Donc, il voit les relations de proximité avec des menaces, des séductions, il en est au centre, et il évacue toute notion d'organisation sociale. C'est comme ça, c'est pression, action, réaction. Puisque dans ces cas-là, l'affectivité occupe toute la place, commande, et barre toute référence à l'organisation collective, à la seule exception de l'expérience qu'il a très tôt actuellement du phénomène de bande à l'intérieur des écoles, des centres de loisirs, quand il est avec ses pairs. Donc sa référence d'organisation collective, ça devient la bande finalement. Si on suit ce raisonnement, on pousse à l'extrême, hein, je suis d'accord. Alors, pour les plus fragiles d'entre eux, ça peut les amener jusqu'à des troubles du comportement importants. Ça, j'y reviendrai plus tard dans la dernière observation. Mais pour la plupart d'entre eux, ça peut quand même leur occasionner des difficultés quand ils vont rencontrer la nécessité des apprentissages, qui sont fondés quand même sur la répétition, la frustration, la contrainte et le fait que les satisfactions soient différées. Alors, là encore, que peut faire le psy dans ces situations? Certainement pas renvoyer avec de simples conseils en disant « c'est de votre faute, vous n'avez qu'à cadrer votre enfant », parce que ça marche pas. Il doit certainement s'atteler à un travail de soutien parental, avec des objectifs extrêmement simples, mais qui ne sont pas évidents. Le respect de la différence des générations, poser le respect de la différence des générations, le fait que les positions sont nécessairement différentes entre une mère et un père, que le cadre dans la famille doit être posé par les deux parents, des choses qui paraissent aussi simples ou simplistes, mais qui sont absolument difficiles à exercer actuellement dans une fonction parentale banale. Alors, quand c'est fait, quand le père et la mère, ou le père ou la mère, si l'enfant n'a plus qu'un père ou une mère, se montrent partie prenante, l'amélioration est là aussi assez rapide. L'enfant représente, rencontre moins de problèmes d'intégration dans l'école, suit plus les apprentissages. Par contre, quand la collaboration est impossible avec les parents ou avec le parent, là, les troubles vont se chroniciser et l'enfant va continuer à présenter des problèmes. Alors là, je propose une observation pour un petit Thomas qui a 6 ans et qui est justement issu d'une famille qui n'est pas pathologique, qui n'est pas foncièrement pathologique. C'est un petit garçon intelligent. Il faut essayer de montrer comment je vois les choses. Donc sa mère appelle en mars. Elle décrit une agressivité de Thomas vis-à-vis des copains dans la cour, qui est mal supportée par l'équipe enseignante, l'absence de résultats scolaires, en disant et pourtant il est normalement intelligent. Alors, le CNP étant surchargé à cette époque-là, puis ça paraissait pas non plus une extrême urgence, elle a attendu plusieurs mois, elle a rappelé en juin, en disant que là c'était complètement infernal, et que les parents étaient complètement démunis, qu'il était à la limite de frapper son père, qu'il avait déjà frappé sa mère, donc il fallait intervenir. Donc en juillet, il y a 6 ans. Hein, donc, alors en lisant la fiche, moi j'ai cru que c'était un adolescent, je n'avais pas... Alors la liste des symptômes, je me suis préparée à recevoir un adolescent, puis j'ai eu un petit enfant de 6 ans. Alors, en fait, les parents arrivent, ils s'accompagnent tous les deux, Thomas. Ils ont pris un congé pour venir, parce que les parents mobilisés. Hein. Ils disent qu'en fait, les problèmes perdurent depuis plusieurs années et qu'ils sont à la fois inquiets et à bout. Et ça a commencé quand Thomas était en crèche collective et ses parents recevaient sans arrêt les reproches des puéricultrices. Là, il tapait les autres enfants, il les mordait, il était très actif et il supportait mal les contraintes. Alors la psychologue de la crèche est intervenue, a vu les parents, les a adressés vers une psychologue de ville qui les a reçus une fois et la maman nous dit elle nous a orientés vers une modification du cadre de vie. Et en fait, alors, elle leur a demandé de coucher à des heures régulières, de faire manger à des heures régulières, pour avoir un cadre un peu plus strict. Bon, mais elle les a vu qu'une fois. Alors, en fait, si on va creuser un petit peu, alors il a eu des troubles du sommeil depuis sa naissance, jusqu'à l'âge de 5 ans, avec des réveils nocturnes. Ils avaient des nuits aussi assez agitées, assez fatiguées. Mais depuis un an, il dort peu. Alors, jusqu'à 4 ans, il a eu des malaises avec des pertes de connaissance. Cet enfant, c'était pas des spasmes du cerveau, c'était pas forcément lors de colère, c'était imprévisible pour eux, sauf qu'ils tombaient, ils perdaient connaissance. Ils ont fait faire un bilan hospitalier, en pédiatrie pendant une semaine, et on leur a expliqué que c'était pas somatique. Mais on les a pas orientés à l'époque vers un suivi. Alors avant sa naissance, madame avait fait 2 fausses couches, la grossesse a été émaillée d'inquiétude, il y avait toujours quelque chose pour imposer un suivi médical, et il est né avec une circulaire du cordon, enfin, ça a été toujours un petit peu anxieux, il a 2 soeurs plus âgées avec lesquelles il n'a eu aucun problème. Alors, pour les grands-parents, Thomas, c'est le petit-fils le plus investi, me dit la maman. Alors elle m'explique que c'est 9e du côté... maternelle et le 4e du côté paternel, c'est pour ça qu'il est hyper investi. Ben, je n'avais pas très bien compris, mais c'est un enfant hyper investi. Hein. Donc, dès le départ, on explique que c'est un enfant autour duquel il y a une anxiété importante et un hyper investissement. Hein. C'est le seul garçon. En fait, mais il demande de l'aide parce qu'ils disent à l'école, il n'apprend rien, il va passer au CP parce que la maîtresse le trouve intelligent, mais c'est tout. Je pense qu'il y a quelque chose de cas aussi. Donc, il n'a pas de copains, il n'est jamais invité, puis alors à la maison, ça dépend des jours, et des jours ça va, il est charmant. Et puis, quand il commence à ne pas écouter, à s'opposer, c'est l'enfer à la maison. Là, la mère nous dit, là, on peut dire que la soirée est gâchée. Et puis, nous, on se dispute entre nous, et puis on crie sur les deux sœurs, et c'est gâché. Alors, lui, il ne demande pas, il a 6 ans, il parle dans l'entretien, il prend la parole comme un adulte, il leur dit qu'il se trompe, que c'est pas vrai, que ben, d'ailleurs il a vu une série à la télé, ça lui fait, enfin, c'est très important, enfin bon, et là, dès qu'il ouvre la bouche, moi j'aurais tendance à lui dire, écoute, à 6 ans, alors non, la mère s'arrête, regarde intensément, et suspendue à ses paroles, elle corrige ses tournures. Donc, il parle extrêmement bien, il a un vocabulaire extrêmement élaboré, mais il corrige ses tournures pour que ce soit absolument parfait, et elle précise le contenu pour que vraiment, on ait vraiment compris ce qu'il a dit, et qu'il ne subisse aucune frustration, qu'on puisse répondre exactement à ce qu'il vient de dire. Le père s'arrête aussi, le regarde. Alors, il dit, bon, on va le recevoir tout seul, ils acceptent qu'on le voit tout seul, et lui, il ne trouve aucun problème, il est très content, il s'exprime avec beaucoup d'aisance, et lui a une demande de soins. Il dit qu'à l'école, il se bagarre beaucoup, des bagarres, qui lui dit, ça fait mal. Il aime bien quand même aller à l'école, il y a des choses qui l'intéressent, et puis alors, en plus, il a peur de se noyer. Donc tout de suite, il situe le problème, c'est une phobie, il craint de se noyer, après il y aura pas mal d'autres craintes, hein, donc il va donner, il se met à crier, et les bagarres avec les autres. Alors lui, il est très calme. La mère m'avait dit, je vous précise que c'est pas d'hyperactivité, donc elle avait déjà fait un peu de diagnostic. Alors, par contre, moi ce qui me frappe, c'est qu'il est triste. Il est beau comme un linge, il est un peu comme ça, un peu figé, et qu'il commence une phrase sur une voix atonique, et elle tombe. C'est-à-dire que la fin des phrases est quasiment impossible à entendre. Et puis il s'arrête. Alors bon, on dit qu'on va se revoir, alors il revient après les vacances, et je le vois seul, et puis d'emblée il parle de ses peurs, donc il y a eu des araignées énormes pendant les vacances, des trucs monstrueux, notamment dans sa chambre, il y avait encore une piscine, c'était terrible. Voilà. Mais il n'a quand même pas fait de cauchemar, et là il me dit, il y a un autre problème, c'est que quand je suis à la cantine, des fois je suis complètement excitée, je me fais disputer, mais moi je ne sais pas que je suis excitée, et je ne veux pas être excitée. En fait, il se rend compte quand la maîtresse lui dit, t'es complètement excitée, tu sors, enfin bon, et ça l'arrête, et ça la ramène dans sa réalité d'excitation, lui il suivait son mouvement. Alors, on voit ses parents à cette occasion, alors eux, sont abattus, tristes également. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont confrontés à un enfant qui n'écoute pas, qui transgresse sans arrêt leurs interdits, qui les défie, qui pousse à bout notamment le père. Le père s'effondre en pleurant, en racontant une scène où il a collé une grosse baffe, j'ai pas très bien compris, lors d'un voyage en voiture, où il était infernal, il sautait partout, il sur tout le monde. Et le père n'a pas supporté ça, il se sent extrêmement culpabilisé, blessé, et il dit que pourtant, lui, ses enfants, c'est tout pour lui, qu'avec ses filles, il n'y a aucun problème, mais que là, il tombe sur un enfant qui lui renvoie quelque chose d'agressif, et il se sent rejeté de la relation avec cet enfant. Il pourrait libérer une demi-journée par semaine pour s'occuper de son fils, mais il dit... est-ce que je dois, moi, travailler pour m'occuper de mon fils, vu que de toute façon, c'est l'enfer. Donc, je lui dis, oui, effectivement, la question se pose. Alors, Thomas, toujours pareil, il coupe la parole, les reprend. Quand le père parle de la fessée, il essaye d'embrayer sur un fauteuil. Alors... bon, je la revois quelques temps après, et puis ils me disent, bon, alors ça va mieux. On ne sait pas si ça va mieux parce que Lucas va mieux, enfin Thomas va mieux, ou est-ce que c'est parce que nous, on a plus de distance avec ça, et puis on décide d'entretien donc régulier, psychothérapique, avec un soutien des parents en parallèle. Alors, pendant 2 mois et demi, je verrai une fois par semaine, ils sont très ponctuels, très accompagnants. Lui arrive et garde à vue, qui est très calme, il s'assoit droit comme un lit devant moi, prend son crayon, il dessine des petits personnages extrêmement bien, ça dépasse pas des bords, ce sont des personnages très bien coloriés, il me dit que maintenant ça va très bien, que la preuve c'est qu'il est en double section CP-CE1 et qu'il arrive à comprendre ce qu'elle dit pour les CE1. Enfin, vraiment c'est un enfant qui a beaucoup évolué, enfin, il me fait comprendre hein, que les choses s'arrangent. Et ce qui est vrai, c'est qu'il apparaît, il est plus triste. Il est là, il est en face, il n'est pas encore gay, mais il n'est plus triste et sa voix se tient. Hein, donc c'est compréhensible. Alors, ça ne manque pas, hein, au bout de 2 mois et demi, je revois les parents et ils me disent que c'est une catastrophe. Ils sortent d'une convocation avec l'institutrice qui leur a dit qu'elle n'avait jamais vu dans toute sa carrière un enfant comme ça. Bon, je leur dis quand même, il faut nuancer, hein, faut pas trop, parce qu'ils étaient, prêts à ce que je leur donne une indication depuis un deux jours. Enfin, c'était une catastrophe. C'est un enfant qui refuse de travailler. Et c'est ça que la maîtresse ne comprend pas, c'est-à-dire qu'il y a des jours où il travaille et qu'il y a des jours où il ne travaille pas et il met le bazar. Donc, et la maîtresse a laissé entendre qu'il y avait des choses inquiétantes dans la famille qui pourraient déboucher éventuellement, peut-être pas un signalement, mais enfin bon, hein, ça peut falloir qu'il se fasse aider. Elle s'est basée pour dire ça, sous certainement d'autres choses, mais notamment elle a donné un dessin aux parents et la mère a demandé à Thomas si elle pouvait lui montrer le dessin. Donc, je vois le dessin en question, alors c'est un dessin, alors là c'est complètement pulsionnel, c'est pas le petit personnage que je voyais, il y en a partout, toutes les couleurs, et des personnages de manga, enfin bon, des dinosaures, enfin il y en a partout. Alors je lui ai dit, c'est un dessin très vivant, les parents me scrutaient pour voir ma réaction de spécialiste face à ce dessin. Et puis les garçons aussi, ils me disaient, il ne faut pas faire attention. Alors, en fait, ce qui nous a choqué dans ce dessin, c'est le personnage familier. Il avait mis sa famille. Et dans sa famille, les soeurs, ça allait, ça ne les dérangeait pas, mais le père, c'était un personnage extrêmement musclé, avec un bras qui partait comme ça, comme s'il allait faire un acte violent, quoi. Et la mère, elle était en mini-jupe, elle sautait, apparemment, enfin, non, c'est... Alors, ça les a choqués. Bon. Alors, pas osé travailler sur la mère en mini-jupe, parce que je ne connaissais pas très très bien, donc j'ai pris le père. Avec son geste, elle aboutit au fait qu'ils se sentent extrêmement visés, comme des enfants maltraitants, qui pourraient battre leur enfant. Alors que je vous signale que la demande, c'était, il tape sur sa mère et il oublie de taper sur son père. Hein. Donc, moi, j'essaie de resituer un peu les difficultés, où elle se place. Hein. Et donc, les parents arrivent à exprimer l'agressivité qu'ils reçoivent à propos de cet enfant, la stigmatisation et le découragement qu'ils traversent. Et à ce moment-là, Thomas se met à pleurer bruyamment et a accusé ses parents de ne pas l'aimer, de ne pas le comprendre, et puisque c'est comme ça, il en a marre, il va au bout et il tombe au bout. Alors, les parents se sentent obligés de se justifier en disant « mais ton dessin il est extrêmement beau, c'est pas le problème, t'es très doué, enfin bon, ils se sentent obligés, mais on a mal ressenti, certains, on n'a pas dû comprendre. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que les parents pointent leur propre découragement, ce qu'ils ressentent, ça effondre leur enfant qui se relève en les accusant d'être de mauvais parents, de ne pas le comprendre et puis éventuellement lui taper dessus. Quoi. Enfin, bon, c'est ce double mouvement qui est intéressant à comprendre. Alors, bon, ils sont d'accord pour continuer quand même le traitement, il revient la semaine d'après et là, on est parti pour... à peu près presque deux mois de grande excitation dans les entretiens. C'est-à-dire que là, il se lâche, il n'est plus question dans les petits dessins d'un enfant qui jette les objets, qui le vise, qui va faire pipi, qui s'enfuit, qui saute. Enfin, envahi par son excitation, et lors d'un entretien, quelques minutes de calme, il donne quand même un élément très intéressant. Il me dit, il faut que je te raconte une histoire. Alors, il me raconte une histoire. Alors, c'est un petit renard tout seul dans la forêt. Il est perdu. En fait, il avait dit à sa maman qu'il allait juste voir une lumière. Mais il n'est pas allé, il a désobéi. En fait, il est allé ailleurs et il est perdu. Et c'est un grand cerf qui va le ramener. Donc, on essaye de travailler un peu là-dessus, mais c'est très compliqué compte tenu de son excitation. Je revois les parents, je ne parle pas trop de cette excitation, je veux que le travail continue, que il doit se poursuivre. Hein, je protège un peu dans l'intimité des entretiens. Et là, eux, ce qu'ils arrivent à dire, c'est qu'ils ont des... Ils sont d'accord pour être des parents modèles, pour faire tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas d'accord sur les positions adoptées chacun. Et qu'en fait, Thomas se trouve sans arrêt confronté à des opinions contradictoires émanant de ses deux parents. Et ils me disent, Ben, écoutez, alors on convient d'un rendez-vous où ils seraient là tous les deux, sans enfant, et on pourrait discuter de ça, ils sont d'accord. Alors là, l'émission continue, il est toujours à s'exciter, et enfin un jour quand même, il comprend, j'insiste énormément, c'est le fait que s'il est là, c'est qu'il y a quand même des choses qui lui font peur, qui l'angoissent, et que c'est peut-être de ça dont il faudrait qu'on parle pour que lui, il avance. Un jour, ça fait tilt. Il s'assoit sans un mot et il prend des pâtes à modeler, il prend la pâte à modeler, il fabrique des personnages dont il parvient à me parler et ça inaugure une nouvelle phase du traitement. Là, on arrive dans l'échange, on s'appuie sur les opinions, on fait quelque chose ensemble, c'est tout à fait convivial et ça aboutit à des productions extrêmement rapides et assez étonnantes. Donc, alors, ce qui est important à chaque fois qu'il fait une réalisation, c'est qu'il me dit « il faut que je le montre à papa ou à maman, selon la personne qui est dans la salle d'attente. Comme ça, ils vont bien croire que maintenant, je travaille bien et j'ai changé. » Comme si, en fait, ses parents ne pouvaient pas s'apercevoir qu'il avait changé sans voir la réalisation concrète et la preuve matérielle que ça allait mieux dans l'entretien. Donc, s'il y avait quand même déjà un espace de pensée qui s'est constitué pour lui dans le cadre d'un entretien soutenu par un adulte, mais que cet espace de pensée à lui ne peut tenir sans l'approbation de ses parents. Il est encore dans une relation extrêmement proche avec ses parents et l'approbation immédiate est nécessaire pour qu'il ne s'effondre pas ou qu'il ne retombe pas dans un cycle d'excitation. Alors, c'est une prise en charge qui est en cours, hein, je ne peux pas vous donner la suite. Bon, si ce n'est que ses parents ont décommandé le rendez-vous au cours desquels ils devaient venir parler avec moi de leur dissension éducative, la mère m'a dit on s'est fâché, maintenant on est en froid, c'est pas le moment qu'on vient de vous voir, donc on remet. Et ça, c'est souvent, quand on veut travailler avec les parents sur les difficultés concrètes, quand on commence à rentrer dans l'intimité des difficultés, les rendez-vous sont décommandés et parfois aboutissent à des ruptures de prise en charge. Donc ce sont des moments extrêmement délicats. Donc là, ça n'a pas abouti à une rupture, le soin continue, mais c'est très compliqué pour les parents de venir parler de ça. Alors, là, ce qui me paraît important dans ce type d'observation, c'est qu'on parle d'une situation extrêmement banale, d'un enfant intelligent, des parents attentifs, qui ne sont pas malades, et pourtant ce qui se noue entre eux va être lourd de conséquences, enfin peut être lourd de conséquences. On a déjà un enfant qui n'a que 6 ans, qui est arrivé déprimé, sans relation avec des copains, avec des autres, relativement supporté par ses sœurs, mais pas plus, et qui n'entre pas dans les apprentissages. Donc si on essaye de creuser un peu plus loin, c'est vrai que bon, il n'y a pas de particularité notable, c'est pas un malade au sens psychiatrique du terme, mais c'est quand même un enfant certainement facilement débordé par ses affects, facilement anxieux, avec des éléments euphobiques, et que certainement la grande l'hyper-sollicitation de ses parents dans un but d'éducation parfaite pour surtout rien brimer de ses potentialités a certainement agi comme un renforcement des possibilités de débordement de cet enfant. Et c'est probablement là que s'est noué le problème. Voilà. Alors, ça amène à quelque chose d'un peu plus général, c'est que dans la mesure où les fonctions parentales n'ont plus de modèle clairement défini actuellement, chacun doit élaborer son modèle de fonction parentale, et que certainement, ça majore les conflits de couple autour de l'éducation des enfants. Puisque chacun doit élaborer son modèle, chacun doit. Il y a sa propre histoire, sa propre personnalité, tout ça, donc le modèle sera différent même de celui du mari ou du père. On arrive à des situations où des gens à peu près banaux élaborent des modèles à chacun qui sont incohérents et avec les conséquences que ça peut avoir sur l'enfant. Voilà, c'était ça que je voulais dire à ce propos. Alors, sinon, dans les consultations, on observe aussi un autre changement par rapport au savoir, par rapport à l'école, qui mérite d'être relevé. On a l'impression que l'école n'a pas forcément pour but la transmission d'un savoir. Ce qui nous est demandé dans certaines consultations, c'est avant tout de résoudre des problèmes d'intégration. C'est-à-dire, c'est la maîtresse craque, bon, il ne fait rien, mais enfin bon, mais surtout la maîtresse craque, elle ne le supporte plus. Et ce qu'il nous est demandé, c'est de rendre cet enfant supportable pour l'école, le centre de loisirs, et pas forcément de l'aider à rentrer dans les apprentissages. Est-ce qu'on, en fait, dans ces cas-là, l'adaptation est plus importante que les apprentissages. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de vague, c'est qu'on fasse comme si l'enfant allait bien, puisqu'il est bien supporté, puisqu'il va à l'école, donc tout va bien. Et que c'est la relation entre enseignant et élève qui doit être réparée, et non pas l'attitude de l'enfant par rapport au savoir. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans certaines zones défavorisées, en tout cas en France, les enseignants ne notent plus les élèves ou surnotent les élèves en difficulté, parce que l'important, c'est de ne pas avoir de problème, ce n'est pas de quantifier les acquisitions. Ça me paraît être un mécanisme important. Alors, ça, c'était les trois, pour moi, hein, les trois genres de nouvelles demandes qui sont adressées et qui expliquent en grande partie la surcharge des centres. Et en filigrane de toutes ces demandes, de toute cette activité, ce qu'on constate, c'est que certains enfants qui sont mal supportés à l'école sont confrontés quotidiennement à la violence et j'ai essayé de voir de quelle violence il s'agit. Donc il y a forcément la violence familiale, hein, je l'ai décrite pour la mère de Maxime, la violence quand les parents ne vont pas bien, l'enfant est forcément immergé dans une violence familiale. Ça, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau en pédopsie, ça on connaît depuis longtemps. Par contre, il y a certainement des expositions à la violence qui sont relativement nouvelles actuellement. En tout cas, on dirait si vous voyez les choses de la famille. Alors, donc, j'ai distingué là encore plusieurs plans. Donc, l'exposition à la violence, déjà, à l'intérieur des familles. Donc, je vous dis, il y a les familles qui vont mal. Bon, ça, je ne vais pas détailler pour l'instant. Par contre, la violence dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce devient importante, en tout cas dans le recours à la consultation. Alors, dans ce cas-là, la demande, elle est toujours, en tout cas pour nous, exprimée par la mère, qui téléphone et qui dit il y a des troubles, c'est suite à une séparation, et puis le père est violent, et puis j'ai peur qu'en fait les troubles de l'enfant, ce soit la répétition de la violence du père. Ça commence assez souvent comme ça, et dans ce cas-là, les troubles scolaires ne sont pas mis au devant de la scène, c'est la séparation, c'est la violence du père qui sont pointés. Évidemment, bon, au Gipsy, c'est classique, hein, c'est de voir qu'est-ce qui ressort de cette situation, qu'est-ce qui ressort des difficultés propres de l'enfant, les intrications. Est-ce qu'on peut aider l'enfant à se dégager du conflit parental, à retrouver une place d'enfant? Bon, ça, c'est un travail assez classique. Ce qu'on remarque aussi, c'est que dans ces configurations, travailler avec le père, c'est pas facile. Parce que d'une part, il faut passer par la mère pour avoir ses coordonnées. C'est pas toujours facile de les avoir rapidement. Ensuite, quand le père se déplace, on sait bien qu'inévitablement ses relations qui montrent avec ses enfants sont influencées par ce conflit conjugal, par les accusations de violence qui sont portées à tort ou à raison contre lui, et que le travail autour du soin dans ces conditions-là n'est pas facile avec le père. Et puis, dans ces situations de séparation avec violence alléguée ou réelle, on peut se demander aussi si cette violence, cette fuite de la cellule familiale n'est pas en fait pour le père une façon de ne pas assumer ses responsabilités parentales. Est-ce que c'est pas une manière aussi de prendre la tangente, hein? C'est une question qui se pose. Alors, dans tous les cas, ce qu'on constate, c'est que quand il y a eu violence des parents ou d'un des parents, c'est pas neutre pour l'enfant qui garde un souvenir facilement avec lequel il aura à composer. La plupart des enfants qu'on voit dans ces circonstances, bon, évidemment, sont plutôt excités, animés d'un sentiment de toute puissance, ils se disent invulnérables et ils mettent ça en acte dans leur comportement. court-circuitant toute possibilité de pensée. Quelquefois, mais c'est plus rare, on va avoir enfin une idée repliée. Ce qu'on constate dans tous les cas, c'est que le message de la violence a très bien passé et que c'est pour l'enfant un mode de résolution des conflits. C'est quelque chose qui se transmet extrêmement facilement, là, pour le coup. Et que, on peut penser que sans soin, l'enfant aura quand même beaucoup de mal à prendre une distance avec cette fascination, avec ce modèle qui envahit son monde interne. Et la difficulté supplémentaire, c'est de trouver dans la consultation ou dans la psychothérapie un espace neutre qui ne soit pas empiété par le conflit des parents et qui ne soit pas utilisé par l'un comme une arme contre l'autre. C'est extrêmement, extrêmement difficile. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Mais... un petit quart d'heure. Alors, j'avais préparé l'observation, mais je ne la dis pas parce que ça va trop... ça va trop l'inquiéter sur... Alors ça, c'était pour la famille. Alors maintenant, je passe à l'autre milieu que fréquente régulièrement l'enfant, c'est l'école. Alors, en tout cas, moi, dans les banlieues défavorisées que je fréquente, la violence représente un problème quotidien pour un certain nombre d'adolescents, de préados et de plus en plus d'enfants scolarisés dans des milieux difficiles. Ils se plaignent en fait d'un sentiment d'insécurité, de coups, de menaces qu'ils reçoivent dans les couloirs, à la sortie des cours, à la cantine, enfin dans les lieux informels où le prof n'est pas là. Et les filles se sentent traitées comme une marchandise sexuelle et sont habillées souvent de façon protectrice. Alors, ce qu'ils disent, et c'est assez stéréotypé, c'est que les adultes dans ces milieux scolaires ne sont pas des figures d'adultes, ce sont des aînés, sans vraiment différencier les places entre enfants, ados et adultes, qui les briment, qui réagissent en distribuant des réprimandes, des heures de colle collective, sans jamais essayer de comprendre qui a fait ce qu'il ne fallait pas faire. En fait, ce ne sont pas des personnes qui posent des lois qui sont respectées, ce sont des plus grands qui réagissent affectivement à des situations désagréables. C'est comme ça qu'ils vivent la chose. Alors, et les enfants, les adolescents pensent que c'est à eux de se débrouiller avec cette violence ambiante, puisqu'il n'y a pas de recours finalement. Il faut être débrouillard, il faut ruser, qu'ils disent. Donc, et ils n'imaginent pas non plus que leurs parents peuvent les aider dans cette épreuve. Non, non, parce que de toute façon, ça va être pire si mon père, il va avoir un directeur, il comprend rien. Ça va être pire. Donc, ça, moi, je vais ruser, on va ruser. Donc, et dans les consultations, moi, ils me demandent de ne pas dire ça à leurs parents, c'est un secret. Alors que les histoires sur la petite copine, c'est pas un secret, mais ça, c'est un secret. C'est quelque chose qui doit rester entre nous. Le fait qu'ils doivent se débrouiller avec cette violence et ruser. Alors, je me dis, mais alors, quelles conséquences ça va avoir, le fait que ces jeunes, que ces enfants sont soumis quotidiennement à une violence avec laquelle ils doivent se débrouiller seuls. Qu'est-ce que ça va faire? Ce sont des périodes où les identifications sont quand même en plein remaniement. Sur quoi vont-ils s'appuyer et comment vont-ils organiser leurs relations? Si survivre, se débrouiller, c'est assurer soi-même sa protection, ruser, ne pas trop parler et surtout ne pas faire référence à une loi collective. L'impression qu'ils sont immergés quotidiennement dans un milieu où les références sont celles-ci. Est-ce que ça ne va pas les amener à se construire en fermeture par rapport à l'autre, avec des mécanismes d'autoprotection et surtout avec l'incapacité d'adhérer à une organisation sociale symbolisée? Est-ce que ça ne va pas être un des effets de ça? Alors évidemment, pour les jeunes qui sont fragiles psychologiquement, les effets sont beaucoup plus délétères. C'est évident, parce que ceux-là, ils ne se plaignent pas forcément de la violence des autres, mais ils se plaignent de leur propre violence qui est activée dans cette ambiance. Et ils savent qu'ils doivent faire des efforts énormes pour se maîtriser. Ils sont tout le temps à cran, ils traitent tout le temps, et que leur débordement est toujours à la limite de se manifester. Alors, qu'est-ce que... Donc en fait, leur relation, là encore, ils se les construisent sur un mode action-réaction, pression, intimidation, séduction, et dans lequel le langage ne sert pas beaucoup à exprimer ni les affects ni les pensées. On est plutôt dans des attitudes corporelles, des invectives, mais certainement pas dans l'élaboration d'un langage construit. Alors, donc ça peut renforcer l'effet stabilisant du processus d'adolescence. Et la circulation des drogues, enfin, des produits toxiques, qui est quand même très importante dans ces établissements, alimente certainement encore cette spirale. Alors, évidemment, chez les enfants les plus fragiles, ça peut donner un décrochage de la réalité, des troubles du comportement, une marginalisation, des passages à l'acte. Qui va les mettre dans des situations très, très difficiles. Il faut y ajouter aussi, ce qu'on repère, c'est l'absence de culpabilité. C'est-à-dire qu'il m'a agressé, j'ai rusé, il a reçu un coup, c'est tant pis pour lui. De toute façon, moi j'agresse, ceux qui m'agressent, c'est pour moi, je suis pas en cause. C'est quand même comme ça que c'est raconté, y compris par des enfants non malades. C'est la loi, c'est comme ça, il faut se débrouiller, ben donc je me débrouille, je suis quand même pas un crétin à me faire piétiner. Alors, donc, cette absence de culpabilité, à mon avis, va priver ces adolescents des leviers internes de changement. C'est-à-dire que quand ils vont se retrouver dans un milieu où la loi sera différente et où les relations seront organisées sur un mode un peu plus collectif, ils seront certainement en difficulté pour changer d'attitude. Alors, cependant, ce qu'on constate encore une fois, c'est que dans ces cas-là, y compris avec les enfants fragiles, le travail avec les parents a un poids déterminant sur le résultat. C'est-à-dire que si les parents se situent, même tardivement, comme des adultes responsables qui vont prendre les choses en charge, les choses vont s'améliorer. Si laisse filer, soit par méconnaissance, soit par puissance ou lassitude, les choses vont se chroniciser et s'aggraver. Et dans ce cas-là, il n'y a plus d'autre solution que de solliciter l'aide des services sociaux ou des juges, mais avec peu d'effet. Alors, enfin, troisième point qui me paraît important par rapport à l'exposition à la violence de ces enfants, c'est le rôle de ce qu'on appelle les médias, le visuel. Donc, et probablement aussi, depuis quelque temps, la radio, avec toutes les émissions pour jeunes, où on étale beaucoup sa relation sexuelle, sa violence, où tout paraît permis. Alors, donc moi, je ne suis pas là pour vous dire que la télé donne tant de morts, comme ça, j'en sais rien, je pense que c'est peut-être, mais je ne suis pas dans une dynamique comme ça. Ce que je constate dans les consultations, c'est que le visionnage fréquent d'images violentes, et ça, quel que soit l'âge, mais ça arrive chez les tout petits aussi, renforce l'excitation pulsionnelle, lève les inhibitions et désagrège les limites entre réalité et non-réalité. Ça a cet effet-là, c'est la fascination a cet effet-là. Alors, en fait, même moi, en pédopsie, je vois peu d'enfants ou d'adolescents qui passent franchement à l'acte. C'est-à-dire, les adolescents qui sautent par la fenêtre ou qui étranglent dans la classe parce qu'ils veulent, dans la cour parce qu'ils font comme le héros de série qu'ils ont vu la veille. Il y en a quand même peu. Mais par contre, ce qu'on voit beaucoup, ce sont des enfants de plus en plus jeunes et des adolescents qui deviennent prisonniers du besoin de ces images excitantes qui sont directement en prise avec leur vie pulsionnelle. Et que cette addiction qui se constitue est très facile à contenter, puisque c'est des objets illicites, pas besoin d'aller dans le dealer, tout le monde en a, et que ça a un pouvoir extraordinaire d'occuper, de fasciner, sans demander aucun effort. C'est-à-dire que comme on a la PlayStation, tout ce qu'on veut dans la chambre, il n'y a aucun problème. On fonce là-dessus et on reste fixé à l'écran. Donc, ça les prive de jeu, d'ennui, de lecture et surtout de relations avec les autres. Moi, je vois de plus en plus d'enfants qui refusent de sortir, qui aiment mieux finir les jeux vidéo, parce qu'il y a encore des étapes à franchir, que d'aller voir un copain, de se bouger un peu, prendre son vélo, et que cet enfermement qui est tout à fait banal, dans des familles, là encore, relativement normales, enfin, qui est très, très partagée, moi, me paraît symptomatique, quoi. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Parce que c'est vrai que, ni l'intérêt d'aller chercher des copains, surtout que le meilleur copain, il sera peut-être pas libre, enfin bon, quand on peut rester dans sa chambre, avoir des satisfactions, et sans risque de, enfin, avec le risque de frustration qui est quand même minimum. Parce qu'on finit toujours par arriver à l'étape en nous mettant un peu le temps. Enfin, c'est, alors qu'avec un copain, on peut se prendre une claque, on peut pas être gentil, enfin bon, c'est plus difficile. Bon, évidemment, on peut se dire en première défense, en tant que psy, bon, et tout ça, c'est parce que en fait, les enfants, les parents ne s'occupent pas trop de leur enfant. Quand il est devant la télé, c'est la meilleure babysitter, c'est pas cher, il est sage, il est content. En plus, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de drame. Donc ça, c'est un premier niveau d'analyse. C'est la faute des parents. À mon avis, c'est vrai, mais c'est un peu plus compliqué que ça, et ça dans tous les milieux. C'est vrai que il y a un standard de bien-être qui est la télé, l'audiovisuel, enfin les jeux dans la chambre. C'est vrai que c'est fourni par les parents, c'est vrai que c'est facile, c'est vrai que c'est un cadeau qui ne frustre en rien, qui donne la paix dans la famille, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'à travers ça, l'ensemble des parents a le sentiment d'offrir à l'enfant un accès au monde extérieur et un accès à sa vie future. C'est-à-dire qu'on ne se conçoit plus un enfant qui n'est pas à la télé parce qu'il ne sera pas au courant, il sera marginalisé, à la limite il sera un peu con. On ne conçoit plus un enfant qui n'est pas accès à des jeux vidéo parce que c'est pareil, là il va être en baisse par rapport à ses copains qui ont une dextérité très importante, qui savent plein de choses. Donc finalement, ces objets, dans la tête des parents, ne sont pas qu'une babysitter facile, c'est aussi un accès au monde. Surtout que ça a pu être un accès au monde pour les parents eux-mêmes. Donc, dans les milieux immigrés, moi je vois souvent des parents qui me disent, mais longtemps après 2 ou 3 ans de prise en charge, quand ils commencent à dire des choses un peu plus intimes, ils disent, mais moi, j'ai toujours pensé que si les émissions pour télé, les émissions d'enfants pour télé étaient bonnes pour les enfants puisqu'elles passaient à la télé, puisqu'elles étaient permises en France, où on s'occupe des enfants, c'est pas comme chez nous on les tape. Donc moi j'ai toujours pensé qu'il fallait qu'ils voient souvent la télé parce que c'est des émissions pour lui et c'était pour l'éduquer. Et alors, c'est aussi ça l'idée de départ. Alors, donc, et c'est vrai, et là on passe au milieu des gens immigrés, mais pour tous les milieux, c'est vrai que les médias ont un indéniable pouvoir d'instruction, d'information, et qu'ils apportent un savoir immédiatement disponible, qui ne passe pas par les arcanes de l'éducation nationale, où il faut apprendre à écrire pendant 15 ans, ou apprendre à faire une multiplication, ça prend 3 ans. Voilà, c'est un savoir qui est déjà formalisé, qui est facile à ingérer, et qu'on a l'impression de maîtriser. Donc ça a cet effet de séduction qui, à mon avis, contribue aussi à saper l'autorité de l'école chez les enfants, mais aussi chez les parents. C'est vrai que voir un reportage, c'est beaucoup plus agréable et on a l'impression qu'on en sait beaucoup plus qu'en sortant d'un cours d'histoire, qu'en plus il faudra apprendre par cœur. Il y a un mécanisme comme ça qui me semble très important. L'autre effet qui, à mon avis, est important, mais là qui n'est peut-être pas très bien perçu par les parents, c'est que ça brouille l'appréhension de la réalité. C'est-à-dire que la force de captation des images est telle qu'après avoir vu une compétition X, compétition de ski ou de tennis ou je sais pas quoi, on peut avoir le sentiment qu'on connaît les règles, qu'on connaît les bons joueurs, qu'à la limite on sait. C'est tout juste, on n'a pas fait la compétition de ski, enfin, on est dedans, on participe, on en parle, et qu'après on va faire du ski, c'est très ouvert. Enfin, c'est, de toute façon, on sait, on a les images en tête, on sait comment ça se passe. Et que ce brouillage, pour moi, me paraît extrêmement, extrêmement important. Et que, encore une fois là, ce savoir transmis très facilement, très séducteur, n'est pas transmis par les parents, par les enseignants, enfin pas par les figures significatives pour l'enfant, et que ça ne va pas s'appuyer sur des repères identificatoires ou sur des constructions internes. Et que ça me paraît être important dans la construction du psychisme des enfants. Ah voilà, je ne vais peut-être pas vous imposer. Je vais quand même, j'avais préparé d'autres observations, mais je vais quand même vous en donner une qui n'est pas dans mon texte, qui n'est pas du tout dans mon texte, pour essayer peut-être de lancer la discussion sur l'avenir, c'est quelles seront les fonctions parentales dans l'avenir. Je vais peut-être discuter un peu et puis anticiper, pas rester sur quelque chose de pessimiste. Hein. Donc là, pareil, il y a un petit Jonathan, il a 4 ans quand nous commençons à le rencontrer. Alors là, je le rencontre dans le cadre d'une équipe d'unité thérapeutique pour enfants malades de 2 à 6 ans. On fait des groupes de psychothérapie pour des pathologies. Hein, donc. Alors, Jonathan, il est accompagné par sa mère, c'est le quatrième enfant et de 3 pères différents. La mère a rencontré 3 pères. Alors, lui, il ne parle pas, il évite notre regard. Dès que notre regard le croise, il ferme les yeux très fort, comme si ça lui avait fait mal. Il y a des stéréotypies. Lorsque sa mère lui dit qu'il vient d'être propre, il baisse son pantalon, comme s'il voulait lui montrer qu'il n'avait plus de couches. Donc, on reçoit en salle de groupe, on essaie de voir si on peut lui proposer un travail de groupe. Il nous dit quand même quelques mots, mais chuchotés, incompréhensibles. Bon, on décide d'un travail de groupe avec lui et sa mère donne son accord. Bon, et elle nous explique que c'est un enfant qui ne peut pas la quitter une minute dans la vie quotidienne. Ils sont assez collés. Pendant l'entretien, il est sur ses genoux et sinon, il est dans la poussette devant elle. Il a quand même 4 ans, mais il est tout le temps dans la poussette devant elle. Elle le tient. Quoi. Alors, il a quand même fréquenté une petite section durant l'année. Il n'y va que le matin. Il est isolé, il participe ni aux échanges, ni aux activités, mais la maman a tenu à conserver ce temps d'intégration de son enfant. L'école s'est inquiétée, s'est mise en relation avec la PMI qui suit l'enfant, et laquelle PMI l'avait adressé un pédopsychiatrie déjà à 3 ans, parce que ça semblait très très inquiétant. Donc, il a été vu pendant un an par une consultante qui a essayé de mettre en place un traitement psychothérapique qui n'a pas marché, parce que la mère ne l'accompagnait pas assez. Donc au bout d'un an, elle se dit peut-être que l'indication de groupe, ce sera plus acceptable par la maman, donc elle nous l'a adressé. Alors nous, on se dit un enfant malade, comme ça, mais on pourrait bénéficier d'un groupe. Donc on explique ça à la maman, on lui explique le type de travail qu'on fait. Elle nous dit qu'elle partage notre souci, qu'elle sait que son enfant a des troubles de la communication, qu'il ne peut pas apprendre. Elle nous dit qu'elle a fait réaliser un bilan neuropédiatrique qui a conclu à une absence de cause organique mais à un autisme, donc elle connaît le diagnostic, elle nous en parle. Elle nous dit aussi qu'il y a eu beaucoup de problèmes ORL, pulmonaire, qu'elle a toujours fait suivre. Elle accepte de l'accompagner 2 fois par semaine, elle prévient elle-même l'école, donc tout semble rouler, comme on dit. Hein. Alors, il y a une réunion de présentation du travail, le chef de service est là, on explique bien précisément aux parents de quoi il s'agit, ils se rencontrent, enfin voilà, tout semble bien calé, l'information est donnée, les consciences des troubles, elle est d'accord, l'enfant il relève d'une indication. Voilà. Bon, alors, le travail commence à. Ceci dit, on sait que ça va être extrêmement compliqué parce qu'elle n'a pas suivi le précédent traitement. Lorsque je demande à voir le papa, elle envoie promener avec pas mal d'agressivité en me demandant de quoi je me mêle. Vraiment, pour elle, c'est complètement un peu rue. Puis elle finit par me dire que de toute façon, son père vit à l'étranger et que si j'arrive à le retrouver, je serais bien amie. Et ce qui commence à nous inquiéter aussi, c'est que c'est une mère qui parle sans arrêt, qui en même temps entend ce qu'on lui dit, elle comprend, elle entend, puisqu'elle le répète quelquefois la fois d'après, mais elle ne nous laisse pas discuter. Il n'y a pas d'échange, quoi. La compréhension n'est pas échange. Hein. C'est, voilà. Bon. Alors, donc, c'est un enfant qui progresse hein, dans les groupes. Il avance, il commence à me parler, à instaurer quelques jeux. Bon, il reste toujours extrêmement particulier dans sa relation avec les autres parce que soit il va les coller physiquement en essayant de mettre deux doigts dans leurs yeux. Il s'approche comme ça en ouvrant la bouche, donc c'est un peu terrifiant pour celui qui veut arriver. C'est un mode de relation un peu particulier, mais il essaye quand même. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il utilise ses dents pour s'accrocher. C'est-à-dire que quand il ne colle pas, il essaye de s'accrocher. Donc avec les dents, il s'accroche à tout le matériel du groupe, le tapis, les coussins, les vêtements, nos vêtements, nous. Enfin bon, c'est un enfant extrêmement malade. Mais les choses avancent et on peut... Quand on voit la mère assez régulièrement, on explique que pour nous ça avance, elle nous dit que pour elle ça avance, mais toujours sur les champs. Elle n'arrive pas à parler vraiment de ce qui se passe, elle l'amène toujours en poussette, et on n'ose même pas parler de la poussette. Surtout, elle fuit le groupe parent, parce qu'on a mis en place un groupe parent pour le groupe enfant. Dans la salle d'à côté, il y a un groupe parent où les parents se rencontrent entre eux, peuvent échanger, se soutenir. Les parents d'enfants extrêmement malades, hein, donc c'est un groupe à une fonction de soutien et d'élaboration. Et un jour, on ramène les enfants dans la salle des parents et je me dis, ça y est. L'interprétation de violence se manifeste, c'est-à-dire qu'elle voit que son enfant a un œil rouge, qu'on l'a frappé, et donc pendant ce temps qu'elle lui accuse d'avoir frappé son enfant, elle frappe l'œil de son enfant qui est effectivement bien rouge. Donc on ne peut plus contester qu'un œil est rouge. Donc bon, après elle vient extrêmement irrégulièrement, toujours dans le conflit avec nous, mais le service décide quand même de continuer le travail avec cet enfant et on lui propose une place en hôpital de jour. Et c'est vrai que le travail facilite son entrée. Alors, tout ça, pourquoi je vous raconte ça c'est encore une fois pour appuyer sur les bienfaits de la collaboration avec les parents, le rôle majeur qu'ils ont dans l'amélioration de leur enfant, ça c'est sûr. Mais aussi pour poser, ça repose encore une fois la question de la violence intrafamiliale, c'est-à-dire que c'est une mère qui quand même, même si c'est le même service qui continue de le suivre et s'accroche pour l'aider, il va de prise en charge en prise en charge, probablement pour lui quand même avec des effets de rupture, ce qui n'est pas très très bon, donc il est quand même soumis à cette violence, il y a des mauvais traitements de ce type-là, hein, donc ça c'est une chose. Est-ce que sa destructivité vis-à-vis de tout matériel de groupe, le fait de tout mordre, de tout dévaster, c'est quand même pas un peu téléguidé par la violence et la haine que sa mère vit, hein? Est-ce que c'est un enfant qui n'est pas là aussi surdéterminé par son histoire familiale à attaquer le cadre de soi et ne pas en profiter au maximum? Ça c'est une question de la violence. Et ça pose... Alors c'est là l'objet de là où je voulais en venir peut-être pour la discussion, c'est que on a informé la mère. La mère est informée des troubles de son enfant, de la nature des soins, de comment ça se passe, information, on est dans les clous, c'est bon. Mais tout le travail de synthèse que nous on fait à propos d'un enfant, de réflexion, on ne peut pas le partager avec elle et on ne peut pas en faire une représentation commune des difficultés de l'enfant vis-à-vis desquelles il faut travailler. Sa pathologie à elle fait qu'elle ne peut pas s'appuyer sur le groupe parent. Dans ces groupes parents, je pense qu'il y a quelque chose à prendre pour l'ensemble des parents, là c'est parents d'enfants très malades, mais qui se saisissent de ces circonstances d'être ensemble avec une infirmière pour pouvoir enfin rencontrer d'autres parents qui subissent les mêmes déboires, qui sont dans les mêmes difficultés. Et ces groupes aboutissent en général à une amélioration clinique des enfants et surtout à une diminution extrêmement notable du nombre de ruptures thérapeutiques et à l'acceptation des difficultés de leur enfant. Donc, ça, ce sont des groupes. Donc, sa pathologie, elle, ne lui permet pas de s'appuyer là-dessus. Donc, il y aura rupture. Hein. Donc, c'est classique. Mais est-ce que ces groupes parents, que nous, on a, je ne sais pas comment vous faites, mais nous, dans les institutions, on a énormément. C'est-à-dire que pour les enfants qui sont suivis pour des troubles graves, en général, les parents peuvent aussi être dans un groupe de parents. Ces groupes parents qui aboutissent à des représentations communes de ce que c'est qu'un enfant, des difficultés, une structure de soins, le rôle de l'éducation, est-ce que ça ne peut pas être un chemin pour l'ensemble des parents, à savoir que peut-être dans le futur, dans quelques années, vont émerger des représentations qui vont devenir communes, d'ailleurs qu'est-ce que c'est d'être parent, qu'est-ce que c'est d'avoir un enfant, qu'est-ce que c'est d'avoir un enfant qui ne va pas bien, qu'est-ce que c'est que l'école, qu'est-ce que c'est que le médecin, enfin, est-ce que c'est pas là quelque chose sur lequel il faudrait s'appuyer pour avancer, c'est-à-dire des représentations communes qui ne soient plus le fruit de chaque que chaque parent fasse son petit sa petite cuisine de représentation pour s'en sortir comme il peut. Voilà, je m'arrête là-dessus.